Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Belinda Bosuma pour les journal.
Controverse autour du projet de loi électorale voté lundi à l'Assemblée nationale. Le rassemblement El Kassavoubou lui inflige un carton rouge. L'opposition parlementaire, elle, s'en remet au Sénat pour bloquer ce projet de loi qu'elle juge anticonstitutionnel. La crise en RDC dépasse les limites ténées. Plus d'un million de personnes ont fui le pays cette année à cause de l'insécurité. Révélation d'une organisation norvégienne dans un rapport publié hier. Et puis, l'importance de l'arbre pour l'homme et dans la lutte contre le réchauffement climatique, nous en parlons dans la seconde partie de ce journal avec Théodore Moulumba, coordonnateur provincial de l'environnement au Kassai central. Madame, Messieurs, bonjour. Les députés de l'opposition dénoncent le danger que le projet de loi électorale dans sa version actuelle représente pour la paix, la sécurité et la démocratie en RDC. Ils l'ont dit hier au cours d'une rencontre avec le président du Sénat, Léon Kingo Adondo. Pour le président du groupe parlementaire des démocrates libéraux, le Sénat devrait bloquer ce projet de loi anticonstitutionnel qui a été voté à l'Assemblée nationale par les seuls députés de la majorité au pouvoir. Léon Mondolé l'a dit au micro de Michel Kifindango.
Nous avons rencontré le président du Sénat pour lui faire part de la situation qui prévaut autour de la loi électorale. Nous lui avons fait part du danger qui guette cette loi s'il était voté à l'état actuel en ce qui concerne la paix. Et au-delà de cela, nous lui avons signifié que ce projet de loi voté par une partie des députés de l'Assemblée nationale est même en contestation au niveau du gouvernement, où les ministres, surtout ceux issus de l'opposition, conteste ce projet et déclare tout haut que ce n'est pas le projet qui a été l'objet des discussions au niveau du Conseil des ministres au sein du gouvernement. Donc, nous considérons que la majorité au niveau de l'Assemblée nationale a statué sur un faux et en droit, le faux corrompt tout. Donc, ce projet transmis au Sénat a beaucoup de problèmes. Nous avons tiré l'attention du président du Sénat. Nous avons demandé sa sagesse et la sagesse du Sénat pour faire sortir du pays de ces crises qui nous guettent à l'horizon.
Dans le même registre, la base du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, El Kassavoubou, dit infliger un carton rouge au projet de loi électorale adopté lundi à l'Assemblée nationale. Dans une déclaration hier à Kinshasa, la base de cette plateforme politique proche de Bruno Tshibala et Joseph Olengakoy dénonce notamment les dispositions relatives au seuil de représentativité, la caution et la machine à voter. Le RASOP Kassavoubou rejette carrément ce texte dans sa version actuelle. Le porte-parole du RASOP Kassavoubou, Jean-Bo Bamuteba, au micro de Michel Kifindangoy.
Ce projet de loi a introduit deux innovations majeures, à savoir le seuil de la représentativité et la caution à payer par siège visé. En tant que tel, ce projet de loi électorale est inconstitutionnel, étouffe le pluralisme politique, crache sur le multipartisme intégral pour lequel nos compatriotes avaient versé leur sang vers les années 90. Face à ce hold-up électoral, la base du rassemblement des forces politiques exige que la loi électorale de 2011 en vigueur soit gardée en l'état. Demande ainsi au peuple congolais de se ranger comme un seul homme pour barrer la route aux 10 projets de loi électorale qui fâchent et auxquels le rassemblement inflige un carton rouge. On ne change pas les règles du jeu pendant le match et encore moins pendant la période de prolongation.
Pour sa part, la société civile du Sud Kivu compte envoyer incessamment à Kinshasa une délégation des organisations membres de cette composante, munie d'un cahier des charges relatif au projet de loi électorale. Cette délégation devra transmettre des propositions concrètes aux sénateurs, appelés à se prononcer en dernier lieu après le vote de ce texte à l'Assemblée nationale. Maître Patient Bachombe, président du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, au micro de Jean Kassami.
La société civile Sud Kivu voudrait réunir une septantaine d'organisations de la société civile pour pouvoir apprécier qu'est-ce que le peuple veut en réalité par rapport à cette loi électorale. Pour que cette loi électorale tienne compte des desiderata de la population, nous avons comme l'impression qu'il y a une rupture entre nos élus et la base. Nous voudrions déléguer une équipe qui va monter à Kinshasa avec les propositions de Sud Kivu qui devront être tenus en compte par le Sénat Nous savons que en 2015, encore le Sénat avait aidé, avait été proche de la population, avait écouté la voix de la rue. Nous osons croire que pour cette occasion encore, le Sénat va nous écouter, bien que la loi a été adoptée au niveau de l'Assemblée nationale. Mais le Parlement, ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale. Le Parlement, c'est l'Assemblée et le Sénat réunis.
Pendant ce temps, le projet de loi des finances pour l'exercice 2018 a été adopté hier à l'Assemblée nationale. Le budget ainsi adopté par les députés nationaux est évalué à l'équivalence de plus de 5 milliards de dollars américains. Le vote est intervenu au cours de la plénière après approbation du rapport de la commission ECOFIN et relatif. Le texte est ainsi transmis pour seconde lecture au Sénat avant sa promulgation par le président de la République avant janvier 2018. Je vous le disais en titre, la méga crise du Congo-Kinshasa a forcé des millions de personnes à fuir vers d'autres horizons. Ceci est contenu dans un rapport publié hier par le Centre de surveillance de déplacement interne, IDMC. D'après la directrice pays du Conseil norvégien des réfugiés en RDC, l'échelle des personnes fuyant la violence au Congo-Kinshasa est au-dessus des limites. Jeff Ngoy nous résume le dit rapport.
Les statistiques publiées dans le nouveau rapport de l'IDMC sur l'Afrique révèlent une triste réalité à l'intérieur du pays. Plus d'un million de personnes ont fui leur maison cette année jusqu'à présent à cause de l'insécurité selon les Nations Unies, soit une moyenne de plus de 5500 personnes par jour. Cela porte le nombre total de personnes déplacées à plus de 4 millions en RDC. C'est une méga crise. L'échelle des personnes fuyant la violence en RDC est au-dessus des limites dépassant la Syrie, le Yémen et l'Irak, a dit Ulrika Blom, directrice de pays du Conseil norvégien des réfugiés en RDC. Les raisons principales de l'augmentation de ces déplacements sont consécutives à de nouveaux conflits armés et une augmentation du conflit existant dans les zones volatiles. Le rapport de l'IDMC souligne notamment le retard enregistré dans la tenue de l'élection présidentielle comme une partie des raisons de la recrudescence de la violence. Les provinces des deux Kivu, les Kasaï et le Tanganyika sont actuellement l'épicentre de cette violence dans le pays.
Et puis cette réaction à la publication du rapport de Human Rights Watch faisant état du recrutement des rebelles du M23 par le gouvernement pour mater les manifestations. Dans un communiqué publié hier, l'Institut de recherche en droits humains invite urgemment le Parlement congolais, la Cour pénale internationale et le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à diligenter des enquêtes sur la véracité ou non des révélations faites par Human Rights Watch. Hubert Chiswaka, directeur général de l'IRDH, au micro de Paul Mounanga.
Le rapport de Human Rights Watch donne des faits précis. On dit qu'on a recruté plus de 200 miliciens de M23 qu'on a amenés en RDC. Et ces miliciens ont perpétré des violations graves des droits de l'homme. Notamment, ils ont exécuté sommairement plus de 62 personnes et ils ont occasionné beaucoup de blessés et d'autres détentions arbitraires et arrestations illégales. C'est pourquoi nous demandons à ce que le Parlement congolais puisse diligenter des enquêtes pour savoir qui sont les responsables. Mais nous ne sommes pas arrêtés là-bas. Parce que nous savons que l'État congolais est mis en cause par rapport à ces éléments, nous demandons aussi à ce que la Cour pénale internationale, qui est déjà en train d'entreprendre des enquêtes dans d'autres affaires en RDC, puisse regarder aussi ces faits qui sont de sa compétence. Mais on ne s'arrête pas là. La RDC étant membre du Conseil des droits de l'homme, nous demandons à ce que le Bureau conjoint des droits de l'homme, qui a des représentations dans toute la République, puisse vérifier ces faits qui sont extrêmement graves.
Par ailleurs, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme révèle que de janvier à octobre de l'année en cours, 170 femmes ont été victimes d'exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires en RDC. Son directeur l'a dit hier à la conférence de presse hebdomadaire de l'ONU à Kinshasa. C'était en marge des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Aziz Tsoy, dans ses propos recueillis par Honoré Missenga.
Entre janvier et octobre 2017, au moins 420 femmes ont été victimes de violences sexuelles, 528 femmes ont été victimes d'arrestations arbitraires, de détentions illégales, d'enlèvements ou d'embuscades posées par des éléments armés, groupes armés ou des membres des forces de défense et de sécurité. 170 femmes ont été victimes d'exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Nous précisons que ces chiffres ne reflètent qu'une partie de la réalité, bien plus cruelle, du nombre de femmes ciblées ou atteintes par ces violations et ne mesurent pas pas l'impact de ces violations sur les femmes et les communautés, difficilement quantifiable. Parmi les agents étatiques, les principaux auteurs des violations des droits de l'homme contre les femmes sont les agents de la PNC qui arrivent en tête pour ce qui est des arrestations arbitraires et des détentions illégales, des militaires FRDC responsables de violences sexuelles et de violations au droit à la vie.
Le bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme ajoute que beaucoup de femmes ont été victimes d'enlèvements et de violences sexuelles par des miliciens Toa et des miliciens de la FRPI. Nord Kivu, au moins 1200 ménages des déplacés ont bénéficié de l'assistance en vivres et non vivres du PAM et autres humanitaires à Lubero Centre. Mais selon la société civile locale, pendant que l'évaluation est en cours dans cette contrée, des milliers de déplacés n'ayant pas bénéficié de cette assistance se plaignent. D'autre part, suite à l'insécurité, l'opération de distribution de cette assistance est suspendue depuis 3 jours à Alimbongo. Bernard Denyengi.
Cette campagne de distribution de PAM et autres humanitaires, dont NRC, Solidarité et Save the Children, lancée le 29 novembre dernier, cible les sites de Lubero Centre, Kitsombiro et Alimbongo. L'opération s'est achevée sur le site de Lubero Centre, où 1272 ménages ont bénéficié des vivres et 554 ménages ont bénéficié des articles ménagers essentiels à travers la foire aux non-vivres, dit le président de la coordination territoriale de la société civile de Lubero. Cependant, pour Georges Katsongo, la tentative d'incursion des Mai Mai à Alimbongo et l'échange de tirs qui s'en est suivi dimanche vers 19h locale a forcé les humanitaires à suspendre la distribution dans ce site. Environ 2000 ménages devraient en bénéficier. L'armée vient de renforcer sa présence depuis hier à Limbongo pour assurer la sécurité de cette action humanitaire, disent les sources sur place, corroborées par le porte-parole des opérations Sokola 1 Sud. La société civile de Lubero plaide pour l'assistance en faveur d'environ 7000 ménages de déplacés qui n'avaient pas été ciblés par cette première vague de distribution sur l'axe Kanyabayonga, Moussienene. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Dans l'actualité, notez aussi que plus de 300 maisons situées dans la commune annexe à Lubumbashi ont été endommagées par la pluie qui s'est abattue sur la ville mardi dans l'après-midi. Dans la foulée, on compte aussi une dizaine de blessés. Jusqu'à présent, les services de la commune recensent encore les victimes. Pendant ce temps, la plupart des victimes essaient de se fabriquer des abris de fortune avec les matériaux ramassés ça et là. Au sud Kivu, nous apprenons que toutes les écoles conventionnées catholiques et protestantes n'ont pas fonctionné hier dans l'ensemble de la province. Les enseignants de ces deux secteurs ont répondu à l'appel de boycott de leurs syndicats respectifs pour protester notamment contre des retenues injustifiées sur les salaires par des banques et autres détournements. Ils menacent de ne reprendre la craie qu'après les congés de fin d'année si rien n'est fait. Jacques Chirimwami, secrétaire provincial du Sénécat Sud Kivu, au téléphone d'Emmanuel Elamegi.
Le gouvernement nous avait donné les listings au mois d'août et au mois de septembre. On nous a envoyé des parties touchées à la banque alors qu'à la banque, ils n'ont pas déposé l'argent. Nous partons dans des banques, on nous dit que le gouvernement nous a trompés. À part ça, aujourd'hui, on a détourné les frais de fonctionnement des écoles de l'intérieur, c'est-à-dire les territoires de Chabunda, de Fizi, de Mwenga et de Kale. Ça fait 7 mois qu'on est en train de soutirer sur les listings de chaque école 45 000 francs. Est-ce que c'est la commission de la banque au niveau de Kinshasa? On ne sait pas. Est-ce que c'est la Caritas? Troisièmement, il y a des banques qui nous font souffrir ici à Bukavu. La FBIN Bank et la BCDC. Ces banques soutirent sur les salaires des enseignants. Ils ne sont que de leur choix. Vous pouvez aller là et vous soutirer 30 000. Demain, vous allez là et ils vous donnent la moitié de votre salaire. Et quand vous posez la question, ils vous humilient. Et donc, ils vous créent des SMS, un SMS, 1500 francs. Si rien n'est fait, en tout cas, nous allons boycotter la rentrée scolaire après les vacances de Noël.
Actualité Afrique Monde.
L'actualité dans le monde reste marquée par la décision du président américain reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël. Donald Trump a déclenché la colère des Palestiniens et une vague de réprobation bien au-delà du Proche-Orient. Des Palestiniens ont prévu aujourd'hui un rassemblement à Ramallah, en Cisjordanie, territoire occupé par l'armée israélienne depuis 50 ans. La veille, ils étaient des centaines dans la bande de Gaza à avoir brûlé des drapeaux américains et israéliens et des portraits de Donald Trump. Même l'Arabie Saoudite, traditionnel allié des États-Unis, a fustigé un recul dans les efforts en faveur du processus de paix et une violation de la position américaine historiquement neutre sur Jérusalem, a fait savoir Riyad dans un communiqué du Palais Royal cité par les médias d'État. Le président palestinien Mahmoud Abbas a dénoncé des choix déplorables, jugeant que Washington ne pouvait plus jouer son rôle historique de médiateur de paix avec les Israéliens. Le mouvement islamite palestinien Hamas a de son côté jugé que cette annonce ouvrait les les portes de l'enfer pour les intérêts américains dans la région. La Jordanie, la Turquie, mais aussi la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Union européenne ont ouvertement regretté la décision de Donald Trump. Et côté Afrique, la Commission de l'Union africaine regrette une décision qui ne fera qu'accroître les tensions dans la région et au-delà. L'Union africaine qui réitère sa solidarité avec le peuple palestinien et son soutien à sa quête d'un État indépendant ayant Jérusalem-Est comme capitale. Réaction également dans les pays du Maghreb. En revanche, en Afrique subsaharienne, les chancelleries ne se précipitent pas pour réagir à cette annonce.